Bonsoir à tous. Voilà, donc je vous propose de parler cet après-midi de ce que nous apporte la science-fiction ancienne, si tant est qu'il n'y ait pas de paradoxe dans le titre, en commençant par vous présenter les invités qui sont autour de cette table, enfin ces tables. Donc je commencerai par vous prouver que la SF est déjà misogyne en soi, et la SF ancienne, eh ben, je vais vous prouver... Non, pas le contraire, mais la réalité, c'est-à-dire que la seule femme qui est autour de nous, c'est Natacha. Natacha Vasserès est universitaire, et c'est en plus une caution universitaire et de travaux
Sinon, tu l'aurais pas pris, ça,
universitaire.
Voilà.
Non, elle m'a été imposée. Donc, elle s'occupe des utopies, du merveilleux scientifique, puisque avant 1926, on ne peut pas réellement parler de science-fiction. Si ancienne soit-elle, c'est un autre mot qui a été inventé, on peut dire, par Maurice Renard, qui est le merveilleux scientifique. Et avant même, il y avait les utopistes, mais on va y revenir certainement. Tout à fait à ma gauche, Jean-Luc Boutel, qui est le créateur du Club des Aventuriers, dont un certain nombre sont dans cette salle. C'est un club qu'il anime sur un réseau social que je ne nommerai pas. Voilà. Et qui anime aussi un blog dont je vais te demander de le présenter sommairement, puisqu'il est vraiment dans le domaine de nos passions et qui nous intéresse. Ensuite, Francis Saint-Martin, qui est peut-être le plus ancien parmi ceux que je connais, ça ne veut pas dire que c'est le plus vieux, hein. Je le connais depuis l'organisation de la convention de Quetigny, donc 1982, et c'était un de mes premiers inscrits. Et qui est collectionneur du populaire, le populaire au sens large, regroupant bien sûr par superposition le thème de l'anticipation ancienne et des fictions rationnelles. Il reste Jean-Pierre Laigle, alors tout le monde pense Jean-Pierre Moumont, mais il n'aime pas qu'on le dise, donc on ne le dira pas, et grand collectionneur et éditeur de fascicules de réédition de textes rares et introuvables, qu'il est le seul à savoir dénicher et à nous proposer sous ses formes de fascicules en réimpression.
Et traducteur.
Et traducteur, mais j'ai oublié le nombre de langues qu'il est capable de parler.
Et auteur,
bien sûr. Voilà. Le plus beau compliment que j'ai lu au sujet de Jean-Pierre, je le dois à mon voisin de droite, Joseph Alterac, que je présenterai tout à l'heure, qui a dit « On a beau s'intituler des spécialistes de ce domaine, quand on lit Jean-Pierre, on apprend toujours quelque chose. » Je trouve que là, franchement, bravo, tu as bien résumé ce que sait faire notre ami. Et puis Joseph Alterac, qui est un des deux co-auteurs de ce fascicule que vous connaissez peut-être, sur les terres creuses, avec Maïssa.
Ouvrage de référence.
Voilà, alors Natacha a la gentillesse de dire que c'est devenu un ouvrage de référence,
ben oui.
Mais il en reste encore à vendre, alors si vous pouvez faire un effort, quand même. Voilà. Donc, on a fait le tour. Alors, je vois que dans la salle, il y a un assez grand nombre de collectionneurs de haut vol. Je ne les présenterai pas pour des raisons de confidentialité. Tu me corriges si je dis mal. Il y a Marc M, Jacques B, Philippe M, voilà. Et il manque Pierrot Gourdelot qui nous a quittés parce qu'il y avait une vente à Drouot qui ne voulait pas louper. Bon, que j'ai même pas eu le temps de te présenter. On ne va pas le refaire, surtout lui. Voilà. Le débat, vous connaissez, s'il y a un débat, on ne sait pas, mais on va vous présenter un peu ce que représente pour nous la science-fiction ancienne, les anticipations depuis les siècles derniers, et ce que ça peut apporter au domaine actuel de la fiction romanesque, en tout cas de leur étude. Si chacun... on finira par les questions du public, je sais qu'elles ne vont pas tarder. Voilà, Jean-Luc, ton présentation de club déjà, et puis ensuite tu nous diras ce que toi tu penses du domaine qui t'accapare tes nuits, tes journées, ton appartement, et ta femme m'a dit d'autres trucs, mais je ne peux pas les dire au micro, voilà.
Donc, pour vous présenter les aventuriers, bon, déjà pour vous présenter mon site, qui est sur l'autre face du monde, que j'ai créé il y a à peu près 3 ans, à peu près conjointement avec le club des aventuriers. Le site sur l'autre face du monde qui se veut vraiment axé sur le merveilleux scientifique, comme le disait Guy tout à l'heure, en hommage à son créateur, disons Maurice Renard. Je n'ai pas fait preuve d'innovation, hein. Il existait bien avant sur support papier des fanzines, enfin des revues de référence. Je me suis un petit peu inspiré du bulletin des amateurs d'anticipation ancienne, dirigé par Marc Maduro, ici présent, et Philippe Boisbled, qui a été un petit peu le facteur déclenchant. Et je me suis dit que, bon, de toute façon, il existe un support Internet. Pourquoi ne pas mettre à disposition à tout le monde des textes qui sont, ou des romans ou des analyses de textes qui sont totalement inconnus du grand public. Donc je me suis servi de l'outil informatique pour véhiculer quelque part tous ces trésors cachés. Parce que pour moi, en fait, on associe souvent à l'anticipation ancienne le terme de collectionneur. Bon, nous sommes collectionneurs par la force des choses, parce que bien souvent ce sont des textes qui sont tombés dans le domaine de l'introuvable, de la rareté. Donc pourquoi ne serait-ce que le privilège de certains favorisés qui auraient la chance de trouver ces textes, ou qui auraient la bonne fortune d'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir se les payer. Donc je me dis, ben, autant que faire se peut, autant en faire profiter le plus grand nombre de personnes, et d'essayer de parler, de présenter un auteur, de présenter une œuvre, de présenter une thématique.
Ce qui a eu un effet rigoureusement inverse, c'est-à-dire que la cote a monté, multiplié par 10, et maintenant plus personne ne peut s'acheter ce type d'ouvrage. Alors j'ai oublié de dire et de préciser que Jean-Luc était un peu du Midi, vous avez entendu, mais on n'a pas pu trouver de traducteur instantané. Alors s'il y a des questions à lui poser, vous me les posez, je lui poserai dans son langage pour que ça devienne cohérent.
Donc voilà sur l'autre face du monde. Après, rapidement pour les aventuriers, bon, j'étais réfractaire à toute idée de réseau social, c'était quelque chose qui me révulsait. Le jour où je me suis inscrit sur le réseau social dont je tairai le nom, je me suis dit, c'est quand même le moyen idéal et instantané de pouvoir passer, de diffuser des informations, parce que je me suis dit aussi que j'étais pas tout seul. Bon, il y a les personnes ici présentes, mais qu'il existe dans toute la France des personnes qui sont passionnées ou qui pourraient être intéressées, parce que fort heureusement, il y a beaucoup
de... Tu crées les vocations, c'est ce que tu
dis. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir me disant, mais tiens, je ne connaissais pas tel auteur, je ne connaissais pas ça, ah mais je ne savais pas qu'en 1920 ou en 1908, on avait écrit une histoire qui se passait sur la planète de Mars. Donc en fait...
Et ils viennent à Toulon.
Oui, c'est des malades. Non, ils viennent ici. Non, voilà. Donc c'est à ça aussi, pour faire un petit relais avec pourquoi disons-nous de l'anticipation ancienne, c'est parce que finalement, on se rend compte qu'actuellement, on n'a rien inventé, et qu'il y a beaucoup de thématiques qui ont déjà été traitées.
C'est le côté le plus intéressant, c'est de trouver toujours la bonne idée et de s'apercevoir, quand on lit les auteurs anciens, qu'elle a toujours été trouvée avant. Alors, déclinée, bien sûr, par les auteurs plus modernes, mais toujours, on trouve quelqu'un qui a eu cette même idée avant celui que l'on veut faire en référence.
N'exagère pas toujours.
Toujours.
Souvent.
Alors, très souvent. Jean-Pierre, présente-toi rapidement.
Oui, Jean-Pierre Lègle, thématicien, S-anticipation.
Jamais j'aurais écrit ça.
Donc on peut inventer encore.
Hein. Oui. Les thèmes. Bon, on peut, en tant que thématicien, je me suis dit jadis qu'il y avait des thèmes périmés et que donc ils n'avaient d'intérêt qu'historique. Et puis je me suis aperçu que les thèmes évoluent. Je vais donner un exemple. Si vous avez lu le Péril bleu de Maurice Renard, vous savez qu'il est question d'un continent invisible qui entoure toute la Terre dans la haute atmosphère. Bon, depuis, on va dans les étoiles, on sait que ça n'existe pas.
C'est pas possible.
Et donc, je pensais que c'était un thème périmé, abandonné. Eh bien non, des auteurs de science-fiction ont transporté ça dans d'autres planètes.
Plus on cherche, plus on trouve. C'est ça, en fait, la philosophie.
Voilà. Les thèmes se transforment, mutent, et on les retrouve sous une autre forme, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je pense que, quel que soit le thème, il a une actualité.
Ok. Alors, Natacha, notre caution universitaire va prendre la parole pour nous parler de l'aspect des études qui sont entreprises par les professeurs de littérature moderne et comparée, ou de littérature ancienne, pour les mondes, comment j'allais dire, imaginaires et les utopies anciennes.
Alors, d'abord, première remarque. Première remarque, c'est qu'à l'université, l'étude de la science-fiction en France est quand même, somme toute, relativement récente. C'est-à-dire que ça fait à peu près, on a eu de grands défricheurs, entre guillemets, je pense par exemple à quelqu'un comme Roger Bozzetto, Daniel Fondaneige par exemple, Daniel Comper, hein, dans le domaine par exemple de la littérature populaire, qui ont commencé à travailler il y a à peu près 20-25 ans, on va dire.
Et on peut parler de Régis Messiaen quand même au tout début.
Ah oui, c'est oui,
un
mais
des grands pionniers.
Voilà, moi je fais juste un point et puis après je reviendrai très rapidement sur, aussi sur Régis Messiaen. Voilà, actuellement la situation à l'université, c'est que la science-fiction, l'anticipation, le merveilleux scientifique font vraiment l'objet d'études, de recherches approfondies. Nous avons fait donc très très récemment, il y a un mois par exemple, un colloque donc au Canada, à l'université de Chicoutimi, qui s'appelait « C'était demain, anticiper la science-fiction en France et au Québec », donc la période en gros 1880-1950. Voilà, et nous sommes évidemment assez modestes parce que nous nous rendons compte que même s'il y a des études poussées, eh bien, derrière, devant nous, il y a un véritable continent à découvrir. Alors, il y a des explorateurs et toutes les éminentes personnes qui m'entourent sont de véritables explorateurs. Et nous, derrière, bon, on essaie, vous voyez, de théoriser, de donner finalement, je dirais, un vernis scientifique. Mais plus qu'un vernis, une véritable armature scientifique, donc, à tous ces auteurs. La deuxième chose que je dirais, c'est que avant, évidemment, ces grands défricheurs, hein, qui étaient les personnes que j'ai citées, les universitaires que j'ai cités il y a 25 ans, il y a eu évidemment des universitaires et quelqu'un, par exemple, comme Régis Messiaen, mais pas uniquement pour la science-fiction. Régis Messiaen s'intéressait à toutes les marges littéraires, que ce soit par exemple le roman policier, le roman fantastique, ce qu'on appelait à l'époque également le roman populaire, et bien sûr les tout débuts de la science-fiction, puisque Messiaen aurait dû travailler avec Gernsback. S'il avait vécu, s'il n'était pas, puisque Régis Messiaen était un universitaire qui a été en poste à l'université McGill, donc au Canada, et s'il était resté là-bas, eh bien, il aurait travaillé avec Hugo Gernsback pour reprendre Amazing Stories, vous voyez, donc c'était quand même quelqu'un qui était très très en avance, je dirais, on est dans les années, fin des années 30, hein, entre les années 30 donc, et les années 40, et malheureusement, Régis Messiaen, donc, est mort en déportation, il a été arrêté en 1943.
Voilà, il a fait la résistance, il a été pris par les nazis, voilà. Déporté, et disparu dans un camp à une date qui reste encore inconnue jusqu'à présent.
On pense avril 1945. Voilà, mais pour l'instant...
Voilà, ça serait déterminé depuis très peu de temps.
Oui, mais voilà. Et donc, juste pour terminer, bien, l'université, d'abord, il y a eu un renouvellement des générations, c'est-à-dire que ma génération et puis la génération qui suit, ce sont des jeunes étudiants qui d'abord aiment la science-fiction, parce que la science-fiction fait partie de notre dimension culturelle de façon totalement naturelle. Et on a décidé donc d'en faire un objet de recherche. Voilà, et ma propre thèse qui s'intitule « Ces Français qui ont écrit demain », qui est sortie donc l'année dernière chez Honoré Champion, eh bien s'intéresser, alors, tout un panel de 1890 à en gros 2004, mais avec quand même une partie la plus importante, et c'est là où je m'estime être une des spécialistes, justement, de la fin du 19e jusqu'aux années 1940. Donc il y a de vrais travaux à l'université, et la science-fiction devient vraiment, et l'anticipation, le merveilleux scientifique, devient un objet d'étude, véritablement, et dans le domaine des lettres.
Okay. Voilà. Alors tu m'as fourni sur un plateau la transition que je voulais avoir avec le travail de Francis Saint-Martin, qui est le domaine du populaire, et Francis définit très bien la chose en disant qu'il y a un domaine qui se regroupe entre le populaire et la fiction ancienne. Effectivement, c'est les anticipations qu'on rencontre dans les romans dits de gare à l'époque, mais je refuse ce terme-là. Mais il va mieux encore que moi vous expliquer quels sont les objets de ses recherches.
Eh bien, la science-fiction ancienne se situe dans un paysage beaucoup plus large qu'est celui de la littérature populaire. Et elle est parue dans des publications qui ne sont pas spécifiques. Et finalement, comme tout le reste de cette littérature, on peut la distinguer et lui trouver une origine. La quasi-totalité de cette littérature provient de la littérature géographique du siècle précédent, et elle s'inscrit dans un paysage que l'on pourrait appeler une terre fermée, c'est-à-dire que les, une terre fermée, mais qui est ouverte en même temps à l'imaginaire des auteurs. Les auteurs imaginent encore la Terre comme une planète de découverte. Pas une planète plate, mais une planète où il y a des zones géographiques qui sont encore inconnues, et où ils vont donc situer une partie de leur imagination et bien souvent une partie de leur intrigue. Donc, c'est un peu comme si le théâtre que nous avions sous les yeux était gigantesque et que derrière les rideaux se passaient des scènes, des actions qui ne sont pas visibles ordinairement, mais que l'on peut découvrir quand on se rapproche d'elles. Cette littérature est finalement assez pauvre, esthétiquement, même si thématiquement elle peut être riche. Elle se décline souvent en parties imaginatives où on va ranger tout ce qui est la race perdue, la découverte de civilisations, l'expérimentation scientifique développée, ainsi de suite. C'est un fragment de littérature qui est assez mimétique et finalement qui découle bien de la littérature de Jules Verne, c'est-à-dire que c'est de la littérature d'exploration. Et en même temps, elle donne une bonne image de l'esprit de l'époque et des auteurs qui ont pratiqué ce genre, qui finalement ne sont pas des gens extrêmement imaginatifs, du moins pour ce qui est du futur. Ils peuvent être excellents en ce qui concerne leurs intrigues, mais ils n'imaginent pas un futur très très développé. Par contre, il y a d'autres littératures qui existent, toujours dans le même domaine, où les auteurs visiblement se projettent ailleurs que sur le théâtre terrestre. Et ils ne se contentent pas d'exporter dans des endroits méconnus leurs idées originales. On va certainement parler de ces auteurs-là, et qui sont ceux qui valent le frisson que l'on ressent quand on trouve un livre de science-fiction inconnu, quelque chose qui va peut-être nous ouvrir de nouveaux horizons.
Alors, il ne faut pas rêver, des livres de science-fiction inconnus, il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, des textes, oui. C'est-à-dire que la plupart du temps, et c'est un aspect technique des recherches que nous sommes en train d'entreprendre, ce sont les difficultés d'accès des documents quand ils sont en revue ou en journal. Francis s'est fait une spécialité de ce type de recherche, et avec Joseph, puisqu'on va certainement maintenant être en phase, non pas terminale, mais pré-terminale de rédaction d'une très grosse encyclopédie qui va de la première utopie française, donc 1616, et là c'est une annonce officielle, jusqu'à la date, on s'est fixé 1951, parce que dans le domaine francophone, et on ne parle que du domaine francophone, c'est une date importante puisque c'est la première date d'apparition des collections spécialisées en France. On estime qu'après, ça devient de la science-fiction moderne et que ça n'est pas notre propos pour cela en ce moment. Donc, notre recherche sera celle-ci. Voilà, un mot donc sur les collections de journaux qui sont les côtés difficiles à rassembler, à obtenir, malgré la numérisation de plus en plus importante d'un site comme Gallica, où là, on a de plus en plus accès à ces choses-là. Mais jusqu'à présent, c'était quand même pas facile de trouver des textes, même s'ils étaient nombreux. Tu voulais ajouter quelque chose?
Ce que je veux ajouter, c'est que lorsque Guy parle justement de ce problème des revues, la difficulté d'accès aux journaux, c'est effectivement une difficulté pratique. En fin de compte, dans toute recherche, on a besoin d'avoir accès à des journaux, et il y a toute une série de recherches, le même problème se pose. Oui. La spécificité de ce qui intéresse, je pense, les chercheurs, les amateurs, on va dire, de science-fiction ancienne, c'est que ce sont quand même souvent d'abord des personnes qui raisonnent un peu comme Jean-Pierre, c'est-à-dire qui s'intéresse aux thématiques. Et donc ça pose un problème très compliqué parce que au prétexte qu'un texte va parler de futur, bon, on a un texte écrit en 1900 qui nous décrit le monde en 1950, ça va nous intéresser. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs manières de parler du futur. Il y a des textes qui n'ont pas du tout le même statut. Il y a des textes très populaires, des textes d'histoire d'aventure, par exemple dans des collections spécialisées d'aventure. Il y a des textes d'intellectuels à vocation philosophique. Eh bien, les amateurs de science-fiction ancienne vont avoir tendance à, non pas mélanger tout cela, ils ne sont pas stupides, ils voient bien les différences d'approche des auteurs, les différences de statut des textes. Mais pour eux, la thématique va être particulièrement importante. Donc on verra dans leur liste, dans leurs exemples, se mélanger des auteurs populaires comme Bousnard, Paul Diwar, et des auteurs à prétention philosophique, et écrivant des utopies. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à gérer. D'ailleurs, le point de vue de l'université m'intéresserait là-dessus, parce que je pense quand même que ce qu'on appelle la science-fiction ancienne, enfin les amateurs, les chercheurs de science-fiction ancienne, en science-fiction ancienne, sont pour moi très très influencés, j'allais dire sans savoir, mais en réalité ils le savent tous, par Vercin, par l'encyclopédie de Vercin. Ouais. Par cette volonté de Pierre Vercin, donc qui avait sorti une encyclopédie, de la science-fiction, des voyages extraordinaires, de l'utopie, qui a plus de 40 ans, et qui justement il parlait de science-fiction, d'utopie et de voyages extraordinaires, bah, on peut se demander si tout ça c'est bien la même chose. Eh bien, dans l'esprit de Pierre Vercin, il sait bien que tous les textes n'ont pas le même statut, mais ce qui va l'intéresser, lui, c'est l'idée conjecturale. Et c'est bien pour cela, d'ailleurs, qu'il a lancé cette formule qui a fait beaucoup sourire, ou qui a été beaucoup critiquée, ou qui est très critiquable, mais qui est quand même très forte, qui est celle de conjecture romanesque rationnelle. On n'a pas trouvé mieux. Le vrai problème, c'est... en tout cas, c'est comme ça que lui voit les choses. Le problème, les discussions entre passionnés sont plutôt sur le côté rationnel, parce que le terme rationnel est un peu délicat là-dessus. Mais on se comprend. C'est-à-dire que, en gros, on parle plutôt de spéculation d'ordre matérialiste, même si l'auteur peut ne pas être matérialiste dans sa philosophie. Mais on se comprend. On est dans le thématique. Et là, je pense que ça, c'est quelque chose de très particulier, et qui rend, je pense, la lecture des essais produits par ces amateurs un peu, enfin, décontenance un peu, parce que le statut du texte finit par disparaître. Ce qui intéresse, c'est l'idée conjecturale. Donc on arrive avec des bibliothèques, des listes assez ahurissantes, où on a des ouvrages d'académiciens, rangé dans la bibliothèque à côté de fascicules à 20 centimes, ce qui est curieux. Mais c'est curieux, mais c'est comme ça. C'est la thématique qui prime, me semble-t-il. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Ça complique tout, évidemment, au niveau des définitions. Parce que quand on veut essayer de définir la science-fiction, à partir de là, on perd de vue, chez l'amateur de science-fiction ancienne, il perd de vue, même s'il n'est pas, il le sait, mais il perd de vue le statut des textes. Ce qui l'intéresse, c'est la thématique.
Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je me suis aperçu, en tant que thématicien, que tout thème est extrêmement subjectif. C'est-à-dire que quand on parle d'un thème avec, que je parle d'un thème avec une autre personne, soit elle a tendance à restreindre ce thème, soit elle a tendance à l'étendre. C'est-à-dire qu'entre deux personnes différentes, notre conception du thème, nos conceptions du thème ne se recoupent pas tout à fait. Alors, et c'est ça qui est justement discutable dans tout thème.
Tu as raison, mais c'est un peu l'objet de toute discussion, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais on veut rassembler large pour pouvoir être le plus complet possible. Alors c'est une utopie, ça aussi. C'est que, au prétexte de vouloir tout regrouper autour d'un thème qui nous plaît, on va aller chercher un peu dans les coins, il faut bien le reconnaître. Alors ça, l'université le fait aussi, mais elle essaie de s'en détacher.
Oui, je te laisse terminer, parce qu'après, justement, je voulais repartir sur ce que disait Joseph.
C'est plus intéressant que ce que je dis.
Non, tout à fait, tout ça termine ce que tu dis.
Non, mais j'ai terminé, c'est que sous prétexte de vouloir citer des textes qui paraissent ne rien avoir en commun, en fait, si... Mais c'est aussi l'idée de ratisser large, de « j'ai peur qu'on oublie quelque chose, que faut-il penser de... » Voilà.
Ratisser ça, large ou restreindre.
De toute façon,
c'est pas l'idée de Vercin et c'est pas la nôtre.
Non, mais c'est entre les deux, en fait.
C'est un réveil de connaissance universelle de façon à cataloguer les genres.
Ok. Georges, tais-toi.
Je crois qu'à l'Union... Enfin, derrière, à mon avis, hein, derrière ce problème-là, il y a non seulement le problème du statut du texte, mais il y a aussi le problème de la hiérarchisation des textes. Parce que pendant quand même assez longtemps, par exemple, l'université s'est totalement détournée de la littérature populaire.
Heureusement que Francis est là.
Ouais, non, mais ce qui n'était pas du tout une bonne chose, parce que c'est une énorme production qui a beaucoup de choses à dire, où il y a de véritables trouvailles. Et donc, l'université, finalement, les théoriciens et les chercheurs ont cherché des biais. Alors, pendant longtemps, on a parlé, par exemple, Marc Angenot, dans les années 80, parlait de paralittérature, vous voyez. Et puis après, dans les années, il y a une dizaine d'années à peu près, on a parlé de littérature en régime médiatique. Donc, la littérature en régime médiatique, en fait, c'est la littérature où il y a, c'est un mot bien savant, mais qui désigne tout simplement la littérature qui a de gros tirages. Donc, la littérature populaire, sur un certain nombre, évidemment, de supports, des supports bon marché, a un gros tirage par rapport, évidemment, à une littérature plus élitiste, entre guillemets.
Et c'est la raison pour laquelle elles sont désintéressées.
Voilà, exactement.
Et puis, la difficulté d'accès à certains fascicules. Il faut bien dire que c'est pas aussi simple à trouver que ce qu'on veut bien dire. Pas plus que les journaux ou les revues du 19e.
Alors aujourd'hui, on a quand même une vision qui est totalement différente, alors qui évidemment ne va pas lisser, je dirais, tous ces textes différents qui ont quand même un statut. Je veux dire, un écrivain, par exemple, un académicien ne va pas produire un texte, ne va pas écrire de la même façon que, par exemple, qu'un feuilletoniste. Hein. Ça, c'est une évidence et il faut toujours avoir à l'esprit justement que ce travail de l'écrivain est différent selon le type finalement de support sur lequel il écrit. Mais c'est vrai que à l'université, je pense que derrière il y a cette idée, et Versin avait cette idée là aussi, c'est que pour éviter finalement de valoriser ou de hiérarchiser ces textes, c'est-à-dire de dire ah ben, cette littérature là elle a plus de valeur que l'autre, même si on sait évidemment, et Francis l'a dit tout à l'heure, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas du tout peut-être la même recherche esthétique, etc. Mais pour éviter d'avoir cette hiérarchisation, je pense que les amateurs, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de lisser à travers la thématisation, hein, où Régis Messac, d'ailleurs, parlait de thématologie, vous voyez, déjà dans les années 30. Et voilà, donc c'était juste ce que je voulais dire à propos de cette volonté peut-être d'homogénéiser ce corpus qui est quand même très très large.
Okay. Alors Jean-Luc, je vois que tu as pris ton micro et malgré ton accent étranger, on va écouter ce que tu vas nous dire.
Moi je voulais simplement dire que justement avec est-ce que justement à trop vouloir cloisonner les genres, à trop vouloir les catégoriser, les mettre vraiment dans des thématiques bien définies, on perd un petit peu l'essence même de ce pourquoi ces textes avaient été écrits au départ. Oui. Parce qu'en fait, le genre populaire, dans lequel on engouffrait un petit peu tous les sujets...
C'est l'amusement du lecteur.
C'était l'amusement du lecteur,
on est bien d'accord.
C'est-à-dire qu'à l'époque où ça a été écrit, ce n'était pas un genre défini en France. Pendant longtemps, on l'a classé de fantastique. Les romans de Jacques Spitz étaient intitulés, c'était des romans fantastiques. Au départ, ça n'avait pas vraiment une thématique science-fiction conjecturale. Donc c'était vraiment avant tout du plaisir. Donc c'est pour ça que maintenant...
C'est nous, après coup, qui avons catalogué.
Voilà,
ce sont les études qui ont
permis de... Mais quelque part, au départ, c'est... C'était quelque chose qui était fait pour distraire, pour divertir, pour
tout à fait. Donc, et c'est nous qui en avons fait des objets d'études, mais ça n'a de sens que dans la mesure où lui-même, qui est un auteur quand même célèbre, enfin célèbre
de Spitz.
Mais il ne se prenait absolument pas au sérieux.
Ah non, on est bien d'accord.
Moi j'ai trouvé des ouvrages de lui qui sont dédicacés à des amis, où il leur dit c'est pour lire à la pêche. Et voilà, c'est tout. Et après, d'ailleurs, la fin de sa carrière le démontre, c'est qu'il a fait des choses un peu plus légères pour des revues dites pas pornographiques, mais pas loin, bon, ou des revues légères, voilà. Donc,
Gaillard.
Les revues et magazines, oui. Quand même.
Pour des revues Gaillard.
Oui.
Gaillard.
Ou Gauloise, selon le titre d'une collection populaire, oui, tout à fait. Très répandue.
Et voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Natacha, non?
Oui, non, c'est juste pour rebondir par rapport à la thématique. On a des problèmes de fil et de micro, pardon. La table ronde, c'était pourquoi finalement s'intéresser à la science-fiction ancienne. Et là, on vous a brossé finalement un tableau rapide des objectifs finalement des uns et des autres, ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais je crois que ce serait intéressant de savoir pourquoi finalement on s'y intéresse, pourquoi on lit ça. C'est peut-être parce qu'on a lu Jules Verne, par exemple, au départ, et qu'après on a voulu découvrir, prolonger le plaisir à travers d'autres écrivains, d'autres auteurs. Pour ma part, ça a été moi la découverte de Régis Messac, et puis évidemment le travail avec l'association des amis de Régis Messac, qui est présente d'ailleurs sur le salon si vous voulez passer les voir. Et puis aussi, je dirais, la découverte d'un monde pas oublié, mais d'un monde peut-être un petit peu daté, d'un monde qui apparaît comme suranné, nostalgique aussi d'une certaine époque, les années 1910, les années 1930, c'est-à-dire finalement des années qui n'avaient peut-être pas encore connu l'horreur du XXe siècle. Et moi, je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades ici présents, mais moi je suis une génération de la fin du XXe siècle, et ce que je cherche vraiment, là en tant que lectrice, hein, je ne parle plus en tant que chercheur, mais en tant que lectrice, c'est vraiment le plaisir, voilà, de retrouver ces années-là. Moi, j'aime beaucoup les années 1890, par exemple 1910, qui sont des années d'intense découverte scientifique, de foi dans le progrès, et je trouve que c'est un petit peu, c'est rafraîchissant, voilà, de lire aussi cette anticipation-là.
Alors, tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'après 1945, qui sont la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'optimisme qu'on pouvait voir avant la guerre de 14 n'était plus de mise, ça c'est clair et net.
Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, souligner justement là-dedans.
Non, c'est pas celui-là.
C'est la technologie.
Il
y a tout de même un paradoxe là, et pour moi qui est quand même très fort. On parle de nostalgie éventuelle d'époque avant la guerre de 14. Je rappelle quand même que la science-fiction américaine, qui est celle qu'on reconnaît comme étant la science-fiction, elle prend un essor formidable à partir de 1940, c'est-à-dire au moment le plus noir qu'on puisse imaginer dans l'histoire, même.
C'est pas le moment le plus noir.
Ah bah, enfin, point de vue européen,
si c'est un scoop.
Oui, vas-y.
Non, 1929, oui. C'est l'année où se développe véritablement la science-fiction.
La société est noire.
Oui.
La société, l'époque est noire, mais les littérateurs, non. Parce que les littérateurs sont portés par un espoir, ce qu'ils n'avaient pas auparavant, justement, oui, dans les générations précédentes, où ils étaient beaucoup plus nostalgiques, la littérature était superficielle, les idées n'étaient pas traitées de façon achevée, c'était de la littérature de délassement.
Mais
à partir d'une certaine période, on a assisté à l'apparition d'une littérature politique et d'une littérature impliquée et confiante. Toute la littérature, justement, qui se déroule dans les étoiles, est une littérature de confiance. Ce n'était pas le cas auparavant. Quand je parlais tout à l'heure de paysages étriqués, tous ces auteurs-là n'avaient comme objectif que la planète. Et tout ce qu'ils pouvaient espérer sur la planète, c'était le plateau perdu de Conan Doyle. C'est-à-dire un endroit où quelque chose se passait et qu'ils ne maîtrisaient pas. Ensuite, ce n'est plus du tout le cas. L'avenir ne se situe plus sur notre planète, il se situe en dehors. Et l'esprit des auteurs est tout à fait différent. C'est un esprit ouvert vers l'extérieur. C'est plus un esprit mimétique.
Moi, c'était la remarque était en partant de nous, c'est-à-dire non pas en partant des auteurs de cette époque, mais pourquoi nous, en 2013, on s'intéresse à cette littérature-là.
Oui, c'était ça,
voilà, c'était ça en fait la question.
Et c'est l'objet en fait de la.
Voilà,
de
c'est pour ça que c'était l'objet de la
table
ronde. Voilà, donc c'est la question que. Qu'il fallait voilà, qu'on pouvait se.
J'ai peut-être une réponse. Quand on étudie un texte, il faut toujours le replacer dans son contexte, c'est-à-dire à l'époque où il a été produit. Par exemple, il est assez piquant de constater que la littérature de science-fiction américaine a connu un grand développement. Juste après la crise de 1929. Et pourtant, c'était une période où les gens étaient fauchés.
Une période mais ils avaient besoin aussi de délassement et d'évasion. Donc
oui,
ça a été propice quand même.
Elle s'est développée parce que les supports se sont multipliés. C'est la multiplication
des pulps. Les pulps américains étaient fantastiques.
Voilà, et puis la multiplication des titres. Jusque-là, il y avait quelques pulps généralistes et on s'est aperçu que sous l'influence policier, de l'aventure, qu'il y avait des secteurs qui existaient. Et donc, on a développé ces secteurs-là et on a constaté l'apparition de tout un tas de publications spécifiquement destinées à ces créneaux-là. Alors, pas simplement la science-fiction, c'est même anecdotique sur l'ensemble de cette production. Par contre, il y a beaucoup plus de policiers, il y a beaucoup plus d'aventures.
Et les pulps western existent depuis des années.
Bien avant, oui.
Et quand on parle de pulps, on devrait penser aux western.
On devrait penser les premiers
western et romans sentimentaux. Alors que...
Ah, nous voilà avec un contradicteur émérite.
Non, le premier pulps, c'est un pulps de polar.
De policiers.
Ouais. D'accord, mais en quantité.
Et détectives.
En quantité littéraire, ce sont les pulps de western et sentimentaux qui l'emportent très largement. Alors que dans notre esprit, ce sont les pulps de genre, les autres genres qui sont importants. Mais il y a même des pulps généralistes. Et ceux qui ont survécu le plus longtemps, comme Aventure, Blue Book, ainsi de suite, jusqu'aux années 60, ce n'était pas du tout des pulps des genres qui nous intéressent.
Mais il y avait de la littérature d'imagination, même dans Blue Book. Hein. Tarzan est paru.
Non, c'est John Carter. Mais oui, bien sûr. Mais ce n'était pas un pulp spécifique.
Il n'était pas spécifique, mais il a accueilli de la littérature des loisirs.
Des quantités.
On est d'accord. Juste pour relancer un peu la chose, je voudrais... Les questions viendront tout de suite après.
La question, c'était pour rebondir sur le premier pulp, c'est Arbozy, ce qu'on appelle un pulp, c'est 1886.
Oui, je sais, c'est très ancien. Oui.
Ensuite, c'est Adventure, en 1911, et comme disait Francis, ce sont deux pulps généralistes qui accueillent avant tout des récits historiques, des récits d'aventure, et qui de temps à autre,
et par bonheur, un peu de science-fiction.
Mais à la base, c'est longtemps. Ouais. Les revues des pulps spécifiques, c'est fin des années 20, début des années 30, enfin,
à partir de 26 ans.
Non, c'est là-dedans.
Spécifique, oui, parce que. Mais bon, on va parler de science-fiction plutôt que de policier. Jacques, si vous n'attendez pas. Je voudrais juste poser à chacun d'entre vous une question pour changer un tout petit peu la façon de voir. Est-ce que dans les études, dans les nombreuses lectures que tu as faites, tu as eu un coup de cœur ces 10-20 dernières années d'un auteur ancien qui t'a vraiment scotché? Je ne veux pas parler, et je ne veux pas de nom de gens très connus comme Jean Rey ou Harry Dixon. Non, je parle de gens vraiment qui t'ont, toi, marqué, mais voilà, qui ont été ton coup de cœur de ces derniers temps.
De ces derniers temps. Moi, mon coup de cœur de ces derniers temps...
C'est d'Henri.
On va s'en rapprocher un petit peu. Parce qu'en fait, c'est un roman de d'un auteur qui s'appelle Barry Lagargousse, qui a écrit un roman qui s'appelle La Guerre finale, et que j'ai trouvé assez incroyable. Parce que, bon, en plus, voilà, c'est le
c'est pas courant.
C'est pas courant. Mais c'est vraiment un texte assez incroyable, même s'il finit malheureusement comme beaucoup de textes, puisque c'est un texte qui date de 1880 et quelques.
C'est un rêve expliqué, c'est ce que tu veux dire.
Il se finit malheureusement par un rêve expliqué, mais on trouve vraiment des thématiques vraiment intéressante, donc entre autres, puisqu'on parlait de Danrit, de guerre future, mais la particularité de ce roman, c'est que, en fait, c'est un personnage qui crée une ville, qui s'appelle Kanonstadt, c'est une ville industrielle.
Elle doit beaucoup à Jules Verne.
Et qui fournit l'armement aux pays du monde entier, pour qu'ils puissent se taper dessus, quoi. Et quand
il se fait de la thune.
Pour se faire de l'argent. Et en fait, lui, il fait grossir sa cité. En fait, il a une richesse assez impressionnante. Et en fait, au bout d'un moment, les autres pays se rendent compte que c'est quand même quelqu'un de dangereux qui peut être dangereux. Et lorsqu'on décide de vouloir attaquer donc cette ville.
Il se réveille.
C'est une ville industrielle, il se réveille. Ah. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est toutes les innovations techniques que
ce
savant crée.
Voilà.
Et en fait, on est proche de... Moi, j'ai trouvé ça assez incroyable, c'est que je suppose que tout le monde ici a vu la guerre des étoiles, mais on retrouve les concepts des machines et des quadripodes impériaux, donc sur pattes articulées, avec des espèces de toiles...
Rappelle-nous la date du roman de
1886... Dans ces eaux-là. Okay. Et vraiment, et en fait, ça finit par une apocalypse finale, parce que en fait, pour soumettre,
voilà,
pour plier les autres, comment dire, les enfants un petit peu turbulents que sont la France, la Russie, il invente un canon géant pour pouvoir pilonner les villes, les grandes capitales. Et en plus, il y a une thématique intéressante qui rejoint les Angleterres creuses, puisqu'en fait, il invente une taupe géante pour pouvoir aller faucher les matières premières chez
ces citoyens. Heureusement qu'on ne l'a pas oublié. Hein,
donc, voilà. Donc, ça a vraiment été mon coup de cœur. Okay.
Très bien. Mais ça répond à la question et peut-être à l'intérêt du public. Jean-Pierre, alors, en te limitant au domaine francophone, ton coup de cœur de ces dernières années.
De ces dernières années, eh bien, j'ai lu jadis dans nos loisirs un roman intitulé Le Monde sur le Monde
de Lannes et
Perrin, dans lequel un industriel, un richissime industriel, construit une cité en plein cœur de la Bosse. Et c'est assez amusant parce que
on voit que
l'auteur se méfie déjà de l'extension de ces cités qui dévorent la campagne et dévorent non seulement en occupant le terrain, mais en expédiant toute sa pollution et en empoisonnant toute la terre qui est autour de cette mégalopole et qui détruit toutes les cultures. Et ça, c'est en avance.
Natacha,
c'est 1912.
Oui, mais allez, c'était un petit peu avant.
Voilà, donc mes dernières recherches, moi, s'intéressent aux fourmis et aux insectes. Donc, on est plutôt dans la thématique. Et donc, grâce aux fourmis, j'ai découvert un auteur qui s'appelle Henri Nerf, qui est un anarchiste, qui a écrit donc en 1900 L'homme fourmi, qui vient d'être réédité. Et donc, il raconte l'histoire d'un homme qui rencontre une fée. Cet homme n'est pas très content de sa vie.
On n'est plus dans la science-fiction. Hein.
Justement.
C'est Joseph qui est balance.
Voilà. Et donc, finalement, cet homme va dans la peau d'une fourmi. Alors, voilà. Est-ce que c'est de la science-fiction ou pas?
Question. C'est du merveilleux.
Voilà.
Alors,
moi, j'ai appris ça, de la science-fiction merveilleuse, mais bon, tout est évidemment à discuter. Henri Nerf m'a permis également de découvrir une œuvre publiée en 1914 qui s'appelle Les Pacifiques. Voilà, et Les Pacifiques, c'est l'histoire, en fait, c'est une nouvelle version de l'Atlantide, bon, qui est assez facile à trouver, je pense. Hein,
ah oui, il a été réédité.
Voilà, et puis, toute dernière lecture, c'est La Dernière Jouissance de René Dunant. Oui. Voilà, qui est une œuvre apocalyptique, on peut dire ça, un politique et apocalyptique.
Alors,
voilà.
Je ne sais pas si Lydia l'a mis dans son bouquin, mais ça, on lui posera la question plus tard. Voilà. Francis,
voilà. Et puis après, c'est à toi, Joseph. Ne t'impatiente pas, tu auras ton tour.
Moi, j'apprécie tout particulièrement le livre dont on a vu la photo, là, c'est Le Ballon Fantôme de Jacques Desgachaux.
Parce que c'est pas autre chose à lire, toi.
Parce que c'est un paradoxe. C'est un livre cher, c'est un livre destiné aux étrennes des gamins et qui prône à l'intérieur de ces pages. Bon, l'histoire, c'est un jeune héritier qui touche une fortune énorme, qu'il arrache à son oncle qui est un profiteur, un escroc, et qui va passer son temps dans les airs à distribuer ses louis d'or. Qu'il utilise comme l'est. Et sa philosophie, c'est j'ai de l'argent et mon rôle, c'est de le dépenser. Alors, de le dépenser d'une façon assez juste, malgré le côté inédit de l'affaire, c'est-à-dire de distribuer aux gens qui en ont besoin, mais c'est tout simplement, c'est subversif, parce qu'il dit j'ai suffisamment d'argent pour vivre, pour occuper mes loisirs et vivre correctement, et le supplément, je vais le dilapider, je vais le jeter par-dessus bord de mon ballon, et finalement, je vais aller m'isoler dans une île perdue avec les gens que j'aime pour profiter de l'existence. Ben, je trouve que c'est une histoire qui pouvait amener les enfants de l'époque à réfléchir.
Oui, tout cas, subversif,
tu as raison. Oui, une précision. L'après original de ce roman, c'est dans la revue MAM, qui était une revue ultra-catholique. C'est assez étonnant.
Et c'est étonnant que ce livre ait été publié de cette façon-là,
dans une version...
Oui, mais on parle de générosité dans la religion catholique. C'est un exemple de
partage. Oui,
le partage chrétien.
Oui, le partage chrétien, effectivement, mais quand même.
Oui.
C'est un moment curieux.
Joseph, ton coup
de
cœur.
Moi, c'est le... Oh, j'oublie le prénom d'auteur, c'est de la Landelle.
Le...
De la Landelle, Pigeon Vol. J'ai aussi oublié la date, mais on est fin 19e.
61.
1861, c'est vieux quand même.
C'est ton contrôle.
Oui.
Ouais. Bon. 1861. Oui,
qui, comme son titre l'indique, Pigeon Vol, parle de la future conquête de l'air par les machines plus lourdes que l'air. Et de la Landelle, ce qui est amusant, c'est que c'est un type qui a surtout écrit des romans maritimes.
Oui, mais il a inventé le mot aviation.
Il a inventé le mot aviation, c'est assez fort. On a une description. Alors, de la Landelle, ça ne me semble pas un excellent romancier en soi, mais il écrit comme ses auteurs, justement, des années 1850, 60. C'est assez fou. Il y a des petits bouts de texte, il y a des faux journaux du futur, il y a des extraits, des discussions entre personnages.
Des polices de caractère différentes, des couleurs différentes.
Oui, c'est vrai, c'est un objet aussi. Et ça nous projette dans un futur. Alors, ça va très loin. Il n'y a pas seulement des engins volants extrapolés, extraordinaires, type hélicoptère, etc. Il y a aussi des machines fouisseuses. On essaye de nous décrire l'état futur de la société. Moi, je suis surtout fasciné par la construction de faux objets du futur. Les faux extraits de journaux, par exemple. Pour moi, ça, c'est... Je trouve très amusant, il n'est pas le premier à le faire.
Non,
il y a des exemples beaucoup plus anciens.
1810 avant. Oui.
Voilà. Mais il y a celui, tu sais, celui du oui, il y a d'un.
Kang Yi.
Voilà, Kang Yi, voilà. Il y a un faux journal dépliable
dans le 1910. Voilà. Avec la météo du jour. Et voilà. C'est très, très drôle.
C'est fabuleux. Bon, et là moi, ce livre m'a étonné. Ce qui m'a aussi surpris en le lisant, c'est que j'étais tombé sur une référence, mais venant des amateurs d'histoire de l'aviation, et que ça n'avait pas tellement. Ça n'avait pas été repéré tant que ça par les amateurs de science-fiction ancienne. C'est un livre qui était peu lu, curieusement. Je pense que
personne ne le cite pas forcément. Ouais,
je sais plus.
En tout cas, il n'y a pas d'entrée consacrée à la langue.
Ce qui est surprenant, parce qu'on se dit, ça c'est un livre un peu phare,
Qui fait date.
Voilà, qui fait date. Eh ben, je ne sais pas s'il a fait date, mais en tout cas, pour nous, s'il a fait date, on l'a totalement oublié et on se
redécouvre ces derniers temps.
Voilà, bon, c'est vrai. Moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. D'accord. C'était une surprise pour moi.
Okay. Alors, moi, c'est Julien Mauvrac, qui est un petit auteur qui est vraiment peu connu, enfin, à part les 4 ou 5 personnes qui sont ici, et peut-être 2 ou 3 dans la salle, qui est absolument fascinant. Il a eu l'idée, je ne sais pas quelle est l'influence qui l'a apporté à écrire ça. Il a écrit un roman sur la dérive des continents. La théorie a été imaginée par Wegener en 1911, mais pas publiée. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre les années 30 pour que sa théorie soit enfin reconnue par la science, la vraie science, j'entends. Mais Julien Mauvrac l'avait repéré, ce truc-là, et a écrit des romans populaires dans des fascicules qu'il est très difficile de se procurer, mais qui sont La guerre des gouffres, si j'en ai le bon souvenir, avec 4 fascicules, chacun avec des titres invraisemblables, et une deuxième série, l'année d'après, ou même la même année, de 4 petits romans aussi, tout sur les mondes souterrains, c'est pour ça qu'avec Joseph, on s'était régalé à lire ça, où les idées sont plus folles les unes que les autres, il y a des lacs liquides de métaux, d'étain, de mercure, les gens marchent là-dessus, ils se nourrissent de gaz. Tout est rationnel.
Tout aussi introuvable.
Très difficile à trouver. Voilà, Jean-Luc a la gentillesse de le confirmer. Voilà. Mais bon, ben voilà, ça a été mon coup de cœur dans le domaine populaire. Maintenant, il y en a d'autres, et on pourra éventuellement lancer d'autres pistes. Bon, je pense qu'il est quand même temps de prendre les premières questions. Alors Jean-Luc, tu as la parole, malgré ton accent vraiment qui te dessert.
Non, parce que... Non, en fait, je voudrais dire le pourquoi de cette table ronde.
Oui.
En fait, moi, pourquoi je...
Il est temps, hein.
De l'anticipation ancienne.
C'est ma faute. Vas-y.
Non, en fait, c'est tout simple, en fait. En fait, je pense que pour aimer l'anticipation ancienne, il faut se placer dans un contexte qui est bien particulier.
Alors Pierre l'a rappelé en tout début de débat, il faut être capable d'imaginer le contexte à laquelle il a été écrit,
voilà,
pour se rendre compte, un, que c'est une extrapolation, et deux, l'esprit, j'allais dire, contemporain de l'auteur.
Tout à fait.
Oui, c'est un état d'esprit.
Moi, ce qui me fascine surtout, c'est que comment un romancier, un auteur, alors qu'il n'y a aucun support, il n'y a aucune base, il n'y a aucune définition.
Précédent, oui.
Il n'y a aucun précédent. Comment un gars, un beau jour, s'est assis derrière sa table, a commencé à écrire un roman? Je pense par exemple à Ronny Aîné, la première fois où il a imaginé une vie minérale. Des gens qui ont imaginé des voyages sur d'autres planètes ou des rencontres avec des civilisations extraterrestres, en fait, moi je me suis dit, mais le gars, on est dans un contexte où on s'éclaire à la bougie, on entend le bruit des calèches qui passent dans la rue, et le gars, avec sa plume, commence à complètement délirer. Et là, moi je trouve ça extraordinaire et fascinant. Et c'est ce qui me pousse souvent à lire ce genre de choses, parce que je me dis, mais voilà.
Alors, la réponse, elle est dans les articles de journaux qui parlent des écrivains, qui parlent des romans qui sont parus, où les sources, le plus souvent, si on cherche bien, sont indiquées. Alors, pas forcément par l'auteur lui-même, ça peut être par des critiques de l'époque, par l'abbé Saint-Jôme, par l'abbé Bethléem. Bon, mais ils en parlent. Et ça, ça fait aussi partie des recherches un peu parallèles et de complétude d'une étude, d'un auteur, d'un roman, de choses comme ça. Ça aussi, c'est passionnant. Je suis d'accord avec toi. Alors, il y a un deuxième, et après on va venir aux questions, il y a un deuxième aspect qui m'intéresse, moi, ce sont les énigmes que nous pose ce genre de choses, ce genre de trouvailles, de recherches. Il y en a une qui me vient à l'esprit tout de suite parce qu'elle n'est pas résolue. Et on peut poser le problème d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a la réponse, c'est bien volontiers. Il est paru dans un journal de l'époque dont j'ai perdu le nom, un roman qui s'appelle « La guerre de la baleine et de l'éléphant », qui est signé d'un certain De Marcols. Marc et moi, depuis longtemps, avons repéré que ce type qui se dit anglais, puisque c'est dit, traduit de l'anglais, n'est pas plus anglais que toi ou moi. Et quel peut être ce garçon? Personne ne sait. J'ai demandé au plus grand Vernien, il y en a un qui vient de nous quitter, là, pas quitter Sèvres, hein, pas la vie, qui est Pierrot Gondolo, il était le plus gros collectionneur au monde de Jules Verne. Il a passé 3 heures ici.
Yves Clark ne savait pas non plus.
Yves Clark ne le savait pas, qui était un spécialiste des guerres futures. Avec Joseph, on a fini par l'annexer, puisqu'il n'est connu d'aucun index anglo-saxon, que moi j'ai trouvé une commune dans l'Ariège qui s'appelle De Marcols, comme lui, qui est une ville des eaux, guerre maritime quand même. Voilà, ça, on en est là. Et ça, c'est une énigme passionnante. Enfin, à nos yeux, voilà, on s'amuse d'un rien.
Oui, en fait. C'est pas difficile. Oui.
Non.
C'est ce qui fait le charme.
Tout à fait. Alors, on va peut-être passer, parce que je vois que l'heure tourne. Ah oui, il est 25. S'il y a des questions à la salle qui sont spécifiques à ce type de... Alors, monsieur, mais c'était une remarque. Donc,
oui,
mais c'est oui, ben voilà, la remarque a été faite. Ah, Philippe, oh pardon. Alors, on va revenir sur monsieur, et après, c'est promis, Philippe,
qu'est-ce que nous apporte la SF ancienne? Alors, au-delà de vos recherches, de vous rendez compte, ah ben tiens, tel thème qu'on a vu en 1880 et quelques, on le retrouve dans l'Empire contre-attaque en 1980, mais est-ce qu'il y a une filiation de cette SF ancienne, donc de ces auteurs que, pour les trois quarts, bon, les noms qui défilent, je ne les connais pas pour la plupart parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de littérature, mais est-ce qu'on peut dire que les auteurs qui, aujourd'hui, ou même hier, écrivent ou écrivaient de la SF, sont au courant de cette histoire d'une SF qui a disparu et qui, en fait, j'ai l'impression qu'elle a été totalement mangée par la SF américaine à partir
de... Alors, c'est pas faux, mais en même temps, de plus en plus, on s'aperçoit de ça. C'est-à-dire que les gens, je pense à Pascal Lehmann, par exemple, reconnaît la pertinence des auteurs anciens.
Il s'appelle Pascal.
Bon, peu importe. Serge Lehmann a écrit une introduction à une grosse anthologie et il reconnaît la pertinence des auteurs anciens et leur influence, alors petit à petit, mais comme dans la SF moderne, où les gens s'approprient les inventions de l'auteur précédent pour les réintégrer dans son propre roman. Et bien là, c'est au niveau des idées, on se rend compte, alors on l'a pas fait de manière systématique, mais que les gens connaissent ou ont entendu parler d'eux. Mais c'est le droit du littérateur, il peut bien faire ce qu'il a envie, et selon son inspiration. Mais il reconnaît l'invention faite il y a 10 ans dans un bouquin précédent, où l'idée conjecturale peut-être sociétale également, du changement de la vie courante, de la vie économique ou de la vie scientifique. Donc il y a une espèce, pour répondre à votre remarque spécifique, une filiation d'un auteur à l'autre où les idées sont reprises, repartent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de remonter la chaîne le plus loin possible. Alors, on n'arrive pas au grec et au latin, encore que, mais dans notre recherche actuelle, c'est jusqu'au XVIIe, quoi, grosso modo.
Oui.
Après,
juste,
Philippe, c'est
voilà, juste une mini-remarque. À l'université, on appelle ça, dans les recherches, l'autoréférentialité, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'inspirent les uns des autres, pas forcément
même le mot,
de tout.
On comprend pas.
Voilà, mais si, non, mais c'est, ça veut dire qu'on prend des références, voilà, on les utilise, et puis c'est le lien, justement, c'est ce qui crée ce qu'on appelle une veine littéraire. Vous voyez ?
Ma remarque portait plus sur le fait que ces textes ne sont pas connus, pas diffusés, il n'y a pas d'accès pour la plupart des gens à ces textes. Donc, comment s'inspirer de quelque chose quand on ne l'a jamais vu ?
Alors, mais c'est pas forcément les moins connus, mais si je prends un exemple, si vous prenez un auteur comme Michel Jury, par exemple, qui a commencé à écrire en 1959, bon, ce qu'il nous a dit, c'est que ce qui a provoqué en lui l'envie d'écrire de la science-fiction, par exemple, c'est La fin d'Ila de José Moselli, paru en 1925. Voyez, et c'est pas pour ça qu'il va forcément reprendre. C'est-à-dire que voilà, il y a des liens, mais c'est parfois des liens très très tenus. Ça peut être une idée, voilà,
ou affectif.
Ou affectif, tout à fait. C'est très variable, mais moi je pense qu'il y a une véritable veine littéraire. Ouais, ça c'est
indéniable.
Une
évidence. Elle n'est pas facile à détecter.
Elle n'est pas toujours facile.
Elle n'est pas exprimée.
Il y a souvent des
mais c'est ça qui est passionnant. Ouais.
Et je crois qu'il faut saluer aussi, puisqu'on est là, le travail de personnes qui sont entre autres présentes ici. Et puis le travail de certains éditeurs qui s'efforcent
à
rééditer les textes.
Jean-Pierre est un exemple entre
autres. Jean-Pierre, qui est un exemple flagrant, qui a réédité de nombreux textes, comme font beaucoup de petits éditeurs, même de gros éditeurs, qui ont, à mon avis, suffisamment de courage pour pouvoir ressortir des textes qui, finalement, n'intéressent que peu de personnes, mais qui permettent à tout le monde de faire prendre conscience que, avant la science-fiction américaine, il y avait une science-fiction française.
Alors la parole est à Philippe M. Deux choses. Pour la filiation, ça a été dit, mais je le reformule d'une autre façon. On a tous lu dans notre enfance des bandes dessinées, des illustrés, des journaux, qui nous ont poussés entre autres, à nous construire d'une certaine façon, que ce soit parce qu'on aime la science-fiction ou pour devenir, je ne sais pas quoi, militaire, ou peu importe. Ou archéologues, etc. Et il est bien évident que les gens qui ont lu des feuilletons parus à la fin du 19e siècle, eh ben, ont pu être influencés et connaître ces journaux et ça leur a donné des idées quand ils sont devenus écrivains à l'âge adulte. Donc il y a 25 ans d'écart ou 20 ans d'écart. Et puis de génération en génération, ceux qui ont lu l'Intrépide avant 14 sont peut-être les écrivains de 1930, enfin de 1940, etc. Enfin voilà, ma chronologie n'est pas tout à fait exacte, mais c'est évident que la filiation, elle est comme un bâti de fil dans un tissu. On voit le fil apparaître, disparaître. Et puis, en fait, il est
belle métaphore. Oui, c'est bon.
Et donc, il y a un élément moi, qui n'a pas été signalé. Et une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à la science-fiction. C'est parce que c'est quand même un excellent moyen de critiquer, quelquefois inconsciemment d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, la société de son époque. Et moi, ce qui me passionne aussi dans l'histoire, alors il y a aussi un autre plaisir, hein, c'est le plaisir de la découverte. C'est « Ah, on a encore trouvé un truc, je suis sûr que les copains, ils ne connaissent pas. » Ça, c'est encore un autre aspect.
Ça nous intéresse encore plus.
Voilà. Disons-le clairement, c'est l'aspect principal.
Voilà.
La
chasse et les trophées. Hein, on est toujours dans le paléolithique.
Oui.
Et donc, non, ce que je veux dire, c'est que c'est passionnant de voir que il y a une connexion entre la façon dont les gens écrivent dans ces littératures qui ne se prenaient pas pour de la littérature. Ils écrivent comment ils parlent de leur époque. Alors évidemment, on a les gens qui reflètent complètement leur époque. On parlait d'Henri. D'Henri, il a été jusqu'au bout. Hein. Il a écrit je ne sais combien de milliers de pages sur les guerres futures. Il a été se faire tuer à Verdun. Au moins, il y avait une logique dans l'histoire. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est les gens qui critiquaient la société de leur époque. Et qui, en se plaçant dans le futur sur une autre planète ou dans une utopie quelconque, nous donnent un reflet très intéressant de leur époque et que les ouvrages officiels et l'histoire officielle et la littérature officielle ne nous permet pas de découvrir.
Oui.
Et ça, je trouve que c'est un vrai bonheur de trouver, parce que franchement, 40 c'était pas rigolo, 14-18 c'était pas rigolo, enfin travailler dans les mines ou la métallurgie en 1890, c'était pas franchement folichon.
Oui, est-ce que je peux donner un exemple frappant? Justement, il y a un roman de Jacques Spitz intitulé Les signaux du Soleil, dans laquelle deux planètes se transmettent des signaux et par ces signaux s'arrangent pour prendre qui l'oxygène, qui l'azote de la Terre. Eh bien, et ça se produit effectivement. La Terre est assaillie de cataclysmes lorsque son atmosphère s'en va dans l'espace. Mais c'est tout simplement une métaphore du pillage des ressources de la France par l'occupant allemand.
Et de l'Afrique par la France.
Éventuellement, j'ai évoqué ce problème dans le thème que j'ai développé dans mon ouvrage. Et ça m'a assez frappé.
Alors, monsieur a une question.
À votre avis, y a-t-il un projet de rééditer mon roman d'aventure des éditions Ferzi?
Ah, mais je l'ai fait, ça.
C'est Jean-Pierre,
j'en ai réédité
sous la direction
20.
De Claude Hermier. Oui, il y a beaucoup de fascicules.
J'ai réédité 20 fascicules de Maurice Sima.
Mais pas que.
Mais c'est juste plus rare que les éditions originales, mais autrement...
Oui, mais ça lui rapporte quelque argent. Donc,
bon, j'ai pas fait fortune. Hein.
Okay. D'autres questions, monsieur? Ah, c'est fini.
C'est fini.
Oui. Mais depuis qu'il se rase, on le reconnaît plus.
Moi aussi, je suis un amateur de science-fiction ancienne et j'y suis arrivé par la littérature populaire.
Tu vois qu'il y en a un dans le Nord.
Ouais. Si, c'est énorme. Et quand je ne fais pas l'accent du Sud. Oui, Nord du Sud, je suis du Nord.
Mais attention, moi, on est deux Toulonnais hein, dans la salle. Hein. On t'attend à la sortie.
Non, moi, je suis Toulonnais d'adoption.
Donc moi, je suis arrivé en fait à la littérature de science-fiction par la littérature populaire, parce que mon premier choc a été de lire les intégrales, le début d'intégrale de Fantomas quand c'est sorti chez le bouquin. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est... vous avez parlé des thèmes, vous avez parlé de beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le plaisir de lecture. J'ai face à moi des textes qui sont délirants, où l'imagination est totalement débridée. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Après que le thème du voyage dans le temps, on le retrouve à travers le temps. Bien, c'est sûrement intéressant, mais je crois qu'on oublie voilà, ce plaisir de lecture et parfois on l'emprisonne un peu dans les études universitaires.
La première remarque a été sur le plaisir de la lecture.
Dans ce que tu dis, il y a souvent, c'est un problème qui est soulevé par les éditeurs volontaires qui veulent faire des rééditions. C'est en fait assez difficile et malheureusement, le succès commercial raisonnable est rarement au rendez-vous. Là, on avait tout à l'heure Jean-François Merle qui parlait de la collection Omnibus et de l'anthologie réalisée par Serge Lehmann, Les
chasseurs de chimères.
Dans l'optique Omnibus, c'est un ouvrage qui ne s'est pas bien vendu. Et il faut malheureusement constater au fil du temps que des tentatives de réédition de textes de SF anciennes, il y en a eu un certain nombre. Échecs, ouais. Ça n'a jamais... Gamma s'est arrêté. Quand on regarde bien, il y a quelques classiques qui reviennent tout le temps, qui eux sont restés. Bon, on réédite Jean Lahir, on réédite évidemment... Enfin, tout au moins... Mais on s'aperçoit aujourd'hui, même ce qui est réédité aujourd'hui, c'est dans un contexte éditorial actuel particulier, où les tirages sont très faibles en réalité.
Donc la micro-édition actuelle permet ça maintenant.
Voilà.
Donc c'est aussi un progrès.
Mais des rééditions un peu massives, passer des auteurs qui sont des auteurs comme Rony et encore certains textes, ça ne marchait pas très bien. Hein. Et donc il y a souvent cette demande, ah oui, mais les textes ne sont pas disponibles. Alors lui, c'est que quand ils sont rendus disponibles chez l'éditeur, ça fait souvent un flop. Alors bon... C'est pas facile. Hein.
Et l'amateur qui voudrait vraiment se procurer tel ouvrage, s'il l'investit dans un omnibus à 30 euros, il aura tout autant de chances, en cherchant un peu, de trouver l'original pour ce prix-là.
Oui, mais enfin, bon là, oui.
C'est un aspect important quand même.
Oui.
Parce que toi, entre l'original à 30 euros et un omnibus, tu prendras l'omnibus.
Moi, je le fais offrir, l'omnibus.
C'est ça.
L'omnibus, il y a plusieurs textes, quand même.
Il y a plusieurs textes.
Oui,
c'est certains.
Non, mais il faut quand même pas se leurrer. Cette science-fiction ne peut pas intéresser grand monde. point final.
Eh bien, tu vois, je voulais quand même remercier le public parce que je m'attendais à 4 personnes et je vois que la salle est presque pleine. Donc, c'est bien. Alors, c'est.
Là, il y avait le monsieur.
Le monsieur au fond avant et après la dame. Oui.
Pas intéressé grand monde. Bon, c'est très relatif. Moi, je suis passionné par ce que j'entends aujourd'hui, même si je dormais tout à l'heure, c'était moi qui dormais.
Ah, d'accord. Voilà.
Excuse-moi, Philippe.
C'est le jet lag parce que je viens du sud-ouest, moi.
On sait ce que c'est.
Je comprends.
Et en organisant avec Natacha une expo sur Michel Jury, alors que je ne connaissais rien à l'ASF, je le reconnais volontiers, j'ai découvert Cyrano, j'ai lu Cyrano, qui s'inspirait des philosophes. Ensuite, effectivement, c'est.
On parle pas des Rostand, on est bien d'accord.
Oui, oui,
oui, oui, on parle de Bergerac.
Celui qui n'était pas de Bergerac.
Oui, il s'appelait comme ça.
Et lui, Michel Jury était bien le par à quoi lui. Oui, je sais. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, en préparant une expo sur Michel Jury, moi qui n'avais aucune compétence, c'était Natacha qui l'avait, mais moi j'apprenais. Et je voyais toutes ces influences et je me disais à chaque fois, mais est-ce que c'est bien une idée de lui ou est-ce que c'est une idée qu'il a récupéré, je n'avais évidemment pas la réponse.
Mais le problème, c'est que
voyant que, effectivement, en lisant Cyrano en même temps, en voyant que lui, il s'inspirait des philosophes, et que Jury parle lui-même parce qu'il avait écrit en s'inspirant de ce qu'il trouvait, de ce qu'il nous a raconté, de son inspiration, notamment de Carcel, avec cette petite polémique qui a failli tuer l'avenir de Michel Jury à un moment donné. Aujourd'hui, ça paraît complètement surréaliste, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Jury et Dick ont ensuite influencé Deleuze dans la notion de société de contrôle. Donc la boucle est bouclée quelque part. Et ça, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que la science-fiction s'inspirait des philosophes et la science-fiction, maintenant, inspire les philosophes et l'anticipation, de façon plus générale, inspire
c'est pas faux du tout.
Les philosophes. Voilà.
Ok, merci. Madame.
Moi, je ne connais pas du tout la science-fiction et encore moins la science-fiction ancienne.
Merci.
Mais j'ai lu.
C'est très courageux à vous d'être là. Alors.
Je suis curieuse.
C'est bien.
J'ai lu quand même un livre de science-fiction qui a été écrit à la fin du 19e siècle d'un pasteur anglais qui s'appelle Edwin Abbott, et j'ai été très impressionnée. Je voulais savoir si. Moi, je n'ai pas trouvé. Est-ce qu'il a écrit d'autres choses et est-ce qu'il a. Influencer parce qu'il a une descendance. Voilà.
Alors, il a écrit d'autres choses, mais qui ne sont pas dans ce domaine-là. Oui.
D'accord.
Voilà.
Il y a pas beaucoup. Il y a eu quelques suites.
Un pasteur philosophe.
Il y a eu des suites.
Des suites, par contre, oui.
Écrites par d'autres auteurs.
Oui, oui. Le même thème a été repris des dimensions. Comment dire, des planètes ou des mondes à deux dimensions, voilà.
Oui, la planète de cristal, la planète de cristal, de Léon Gros, qui parle d'un satellite de la Terre, où des êtres à deux dimensions existent.
Oui. On va passer au monsieur au fond, et après Philippe.
Léon Gros, G-R-O-C.
Bonsoir, oui, c'est pour le. Est-ce qu'il y a une demande importante? Est-ce qu'il y a un public maintenant pour. On ne peut pas appeler. C'est plus ancienne, la science plus ancienne, on pourrait dire l'anticipation à l'époque où la science existait. C'est-à-dire ce qu'on appelait l'époque où existait la littérature à un nom, ça s'appelait la littérature plus proche du fantastique, d'ailleurs,
demande au sens du rendu public.
Oui, par rapport à la demande des romans créés.
me concerne pas. Non, mais je ne sais pas. Il y a pas, il y a une, il y a la fantasy qui a même maintenant comme genre établi, qui s'est bien établi, mais qui vient plutôt. Enfin, mais là c'est un autre débat. Je pense qu'il vient plutôt du monde anglo-saxon. Dans le monde français, il n'y a pas eu tellement bien connu.
C'est des réécritures de la littérature médiévale, de toute façon.
Oui, voilà, mais on a du médiéval français qui date du médiéval, mais après, ça a évolué et il n'y a pas eu tellement de. Ça n'a plus tellement existé en France. Non. Aujourd'hui, ce qu'on lit en fantasy en France vient de traduction anglo-saxonne, alors des auteurs français s'y sont mis, voilà. Mais ils sont pas tellement dans la lignée des auteurs médiévaux de la quête du Graal et tout ça. Ça a disparu complètement du paysage littéraire français, sauf rares exceptions. On peut toujours trouver un peu de trucs
mieux.
Oui, mais
Lionel Avousti quand même, oui. Par exemple. Oui, nous avons. À l'université justement de Bordeaux, nous avons invité l'auteur contemporain Lionel Davoust, voilà, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Néomède, c'est-à-dire où les modernités médiévales, comment le Moyen-Âge est revisité à travers la littérature contemporaine. Voilà, francophone, oui, Lionel Davoust, c'est un auteur français. Oui, voilà. Oui, c'est maintenant.
Pour répondre après sur la demande, quant à le quantifier, est-ce qu'il y a une demande pour la littérature anticipation ancienne, c'est bien ça. C'est assez difficile à
extrêmement
quantifier.
Extrêmement limité. Hein.
Parce que en fait, les seuls éléments de réponse que l'on pourrait avoir, ce sont les personnes qui, au travers de sites, de références, de blogs, qui parlent de ce type de littérature, ce sont les retours qu'on peut avoir de personnes en disant, mais tiens, vous parlez de ce texte, moi ça m'intéresserait, ce serait bien de le rééditer. Mais après, pour vraiment le quantifier, c'est assez extrêmement difficile.
La demande transparaît dans les chiffres de vente.
Exactement.
Elle est très
faible. Par contre, ce qui peut être intéressant aussi, mais ce serait peut-être un autre débat, c'est que, en fait, le lien qu'il pourrait y avoir entre l'anticipation ancienne et ce que l'on peut lire actuellement, ce serait peut-être le steampunk, qui fait référence
le
mouvement est à la mode. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de jeunes lecteurs qui s'intéressent au steampunk, qui essayent de gratter un petit peu, qui se disent et qui nous demandent, ah mais tiens, vous connaissez pas, et on les reporte, si vous voulez, à des auteurs anciens qui disent, ah mais tiens, effectivement.
Un nouveau terme qui apparaît, c'est le rétrofuturisme, puisque
le rétro-futurisme.
Fait une exposition là-dessus.
Exactement.
C'est effectivement le truc qui a la mode.
Mais ça peut être un point de jonction entre le récent et le moderne.
Oui. De la même façon qu'il y avait trois assiettes modernes à la fin de l'exposition des assiettes anciennes. C'est exactement la même chose.
Oui, enfin, je peux dire, en tant qu'ancien éditeur de vieille science-fiction, je tirerai 200 exemplaires.
Oui ou non ?
Et je ne suis jamais arrivé au bout du tirage. Alors, pourtant, j'avais un bon fichier.
Okay. Philippe, il y a trois petites choses. La première, c'est que ce qui a été dit pour la philosophie est aussi vrai pour la science. Il est certain que la science-fiction a été beaucoup. On demandait d'où venaient les idées, mais quelquefois, ils venaient de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la littérature, mais qui avait quelque chose à voir avec l'évolution scientifique de l'époque, avec tous les bémols que ça peut représenter. Donc la science-fiction s'est nourrie en partie, pas seulement, mais de la science, et elle a influencé certaines démarches et certaines recherches scientifiques. Et en ce moment, il y a des interactions. La robotique, c'est un exemple avec les lois d'Asimov. Alors elles ne sont plus pertinentes pour les roboticiens actuels. Mmh. Ils ont trouvé qu'il y avait des failles dans le système, et c'est pas seulement dans la littérature, c'est dans la robotique réelle. La deuxième chose, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on a du mal à trouver un public pour la science-fiction ancienne, c'est notre faute. C'est-à-dire qu'on est tellement passionné et intéressé par des choses qui n'ont rien à voir avec la littérature. L'idée, le thème, la recherche de d'où ça vient, quelle filiation, quel est le premier qui a eu l'idée, où est-ce qu'on le trouve, ah j'ai dépouillé telle collection, j'ai dépouillé, voilà. Et il ne faut pas oublier que 90%, comme disait Sturgeon, de n'importe quoi ne vaut rien, et que toute une partie de cette littérature est quand même très difficilement lisible.
Alors il peut y avoir des idées extraordinaires dans les textes,
des textes
vraiment merdiques.
Donc nous on va s'enthousiasmer pour l'idée ou pour le fait que c'est les premiers qui a eu cette idée-là, et quand on veut le faire lire à quelqu'un qui n'est pas passionné,
c'est vrai.
Voilà. Et le paradoxe aussi, c'est que comme beaucoup de thèmes ont été utilisés dans la science-fiction contemporaine, alors contemporaine des générations qui suivent, au fur et à mesure que les générations lycées, quand on lit de la science-fiction ancienne, on se dit, bah merde, on l'a déjà lu ça. Et c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on va trouver que cette science-fiction ancienne qui était précurseur,
elle radote
puisqu'on ça déjà. Ah, j'ai lu ça dans un bouquin qui a été publié en 99, en 2007, etc.
Oui, je peux dire une chose en tant que thématicien. Je pense que quand j'écris sur un thème, j'évite à mes lecteurs la douleur, le pensum de lire certains textes. Hein. Je leur rends service.
Ils réédite que les cons, c'est ce que tu veux dire.
Non, je ne parle pas en tant qu'éditeur. Je dis que quand j'étudie ces textes, c'est thématiquement. Bon. Comme de toute façon, beaucoup sont difficilement accessibles, je leur évite de perdre du temps. Qu'ils lisent plutôt mes ouvrages plutôt que ces textes.
Oui, pour simplement, pour effectivement aller tout à fait dans votre sens, le problème de ces textes, c'est que beaucoup sont très datés. Tant d'un point de vue du style, il y a un style très ampoulé, très lyrique. Et pour les lecteurs contemporains, oui, non, mais pour nous, on peut aimer, mais pour les lecteurs contemporains, c'est quand même ça.
C'est pénible.
Il y a quand même aussi une contextualisation, par exemple, par rapport à des questions de racisme ou d'idéologie. Moi, je sais, quand j'ai lu Perrochon, par exemple, dans Les Hommes frénétiques 1925, voilà, il parle des Noirs, il parle des jaunes. Enfin, c'est très choquant. Alors, même si on se dit, on recontextualise, parce que nous, là, on fait attention, on est spécialiste, mais quand même, quelque part, ça, c'est des textes, c'est vraiment une difficulté d'accession de ces textes par rapport aux lecteurs modernes que nous sommes, parce que le monde a quand même beaucoup changé sur certains points. Voilà.
Oui, le politiquement correct n'avait pas lieu d'être à l'époque.
Ouais. Voilà.
Bien souvent, le fait de découvrir un élément conjectural dans ces textes-là est la justification à la lecture. Ouf, nous n'avons pas complètement perdu notre temps parce que nous pouvons le cataloguer ce livre ou cette nouvelle dans notre répertoire.
Comme attraper un petit poisson.
On rentre à la maison, avec un sana, c'est tout petit.
Juste, Francis, pour conclure, parce que l'heure est largement dépassée, c'est que c'est un peu le travail que nous faisons avec Joseph. On s'applique à résumer les livres, à donner un petit extrait. Ça évite à beaucoup de gens de se casser le nez sur des textes à pinceau. Alors que là,
d'ailleurs, il y a un horrible syndrome.
La quinte essence.
On sait coltiner ces trucs illisibles. On veut absolument trouver un truc
conjectural et obligé de se dire l'un l'autre. Ben non, voilà, ça, c'est pas conjectural. On va pas vraiment regarder, c'est pas vraiment intéressant. C'est vrai que c'est un peu, des fois c'est
frustrant,
un peu désespérant. Pourquoi j'ai lu ce truc de 2500 pages en feuilleton?
Ça sent le mot de
la
fin.
T'as pas le courage d'abandonner à la page 700.
Vous êtes des défricheurs de l'imaginaire.
Des défricheurs de l'imaginaire. C'est une très belle formule. Merci Jean-Luc. Et bonsoir à tous.